Europe 1. De 9h à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
Je vais d'abord tenter de vous résumer une enfance à Pointe-Noire, au Congo, qui nourrit beaucoup de vos livres.
Oui.
Des costumes à Château Rouge, ce quartier du 18e arrondissement de Paris que vous avez fait entrer dans votre récent dictionnaire des cultures africaines.
Oui.
Une vie d'enseignant aux États-Unis depuis 17 ans maintenant.
Oui.
Une reconnaissance en Angleterre, puisque vous figurez dans la liste du Guardian des 100 meilleurs livres du 21e siècle avec Vercassé, le seul roman de langue française de cette liste. Une consécration en France, le prix Renaudot pour vos mémoires de Porc-Épic. Une entrée dans le Larousse, en même temps qu'Emmanuel Macron est sur la même page. Et oui. Et une entrée au Collège de France qui vous a confié pour une saison la chaire de création artistique. Les 8 leçons sur l'Afrique que vous y avez prononcées seront publiées dans quelques jours chez Grasset. J'ai oublié quelque chose d'important ?
Oh non, je pense que pour l'instant ça va. Hein. Bon, on va voir.
C'est déjà beaucoup. Votre voix n'a jamais autant porté, Alain Mabankou. Vous êtes l'un de ceux qui fait rayonner dans le monde la littérature africaine et la langue française. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes maintenant à l'égal de ceux à qui vous rendiez hommage dans Le Monde et Mon Langage, Le Clésio, Dany Laferrière, Sonny Labutanti?
Ils sont mes aînés, ils ont ouvert la voie. Donc j'essaye de faire autant que faire se peut, donner ce que je peux donner, mais je ne peux pas dire que mon projet, c'est de les dépasser, parce que quand un baobab est grand, il est grand. Les petites plantes qui poussent autour ne peuvent jamais atteindre son sommet.
Oui.
Donc, à la rigueur, je tire la substance de leur intelligence pour forger ma propre philosophie qui leur ferait plaisir à eux, mes aînés et mes aînesses. Voilà.
Mais je suis sûr que dans un futur dictionnaire des cultures africaines, à la lettre M, on trouvera Mabankou. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a quelque chose de changé chez vous ? C'est votre engagement plus marqué, plus incisif pour l'Afrique. Il y en a pas mal de traces dans votre dictionnaire.
Mm-hmm.
Mais aussi en France, quand vous adressez une lettre retentissante au président Macron pour lui expliquer que vous n'irez pas travailler pour lui sur la francophonie tant qu'on n'aura pas rompu avec les autocrates.
C'est l'observation de ce qui se passe. Moi, je pense que l'avantage ou l'inconvénient pour un écrivain qui vient d'Afrique ou d'un ancien pays colonisé, c'est qu'il est à la fois écrivain, mais il a aussi une responsabilité morale, voire même culturelle vis-à-vis de la jeunesse africaine. On ne peut pas tolérer que si vous avez cette sorte de micro, que vous parliez simplement de votre propre avenir, alors même que le continent, parce que je dois tout au continent africain, je dois certes des choses à l'Europe, l'approfondissement de ma culture, mais l'Afrique est quand même la terre de mes ancêtres, ma terre de naissance. Et jusqu'alors, ces enfants, ces jeunes filles ne sont pas libres. Donc l'écriture même des textes comme le dictionnaire enjoué des cultures africaines ou 8 leçons sur l'Afrique, c'est destiné justement à donner un éclairage et à refuser le fait que l'écrivain soit dans l'attitude stérile du spectateur, comme dit Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal.
Ouais.
Il faut être debout, il faut être enragé. Et je ne suis pas le seul. En France même, ils existent, mais souvent, on les met dans la marge. Un écrivain comme Didier Deninx, dont j'ai beaucoup d'admiration, est un écrivain très engagé. Un écrivain comme Le Clésio, on ne voit pas son engagement pour les petits peuples, pour les peuples en voie de disparition, pour l'Afrique, pour la présence de l'île Maurice. Beaucoup d'écrivains français font de l'engagement sans le savoir, ou bien sans pour autant qu'on pointe du doigt leur engagement, mais ils sont du côté de la cause. Même dans une certaine mesure, Éric Orsenna, quand il écrit sur le Mali, oui. Lettre à Madame Ba, quand il parle de l'eau, quand il parle du coton. Voyez, on devait faire une certaine chirurgie de la littérature française au lieu parfois simplement de nous servir les plats souvent tièdes d'une littérature nombrilique, alors qu'il existe des grands écrivains comme parmi ceux que je viens de citer, qui sont à la fois grands écrivains et qui ont une utilité sociale.
C'est vrai. Votre lettre à Emmanuel Macron est reproduite à la fin de ces 8 leçons pour l'Afrique chez Grasset. Enragé, vous l'êtes contre les dictateurs qui s'accrochent à leur poste. Il y a une entrée dictature dans votre dictionnaire. À l'entrée développement, développement économique. Une arnaque.
Mais, hein, oui, mais moi je pense que l'aide au développement doit être repensée, parce que lorsque même la France pense aider, ou les ONG pensent aider, ben ça n'arrive pas forcément au destinataire. Mais de l'autre côté aussi, si on ne fait pas attention, l'aide au développement, le développement en question, est perçu comme la continuation de la politique même étrangère de la France, comme une sorte de domination, parce que si tous les jours vous êtes dépendant de quelqu'un qui vous livre la nourriture, eh bien, vous acceptez son diktat, vous n'avez pas d'indépendance. Normalement, les indépendances africaines, c'est dans les, on les a eues dans les années 60. Depuis ce temps, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes toujours là, en train de pleurnicher pour que la France nous donne à manger, pour que la France vienne éteindre nos guerres, pour que la France fasse ceci ou cela. Mais la France elle-même aussi est très contente qu'on puisse toujours regretter son départ, mais elle n'est jamais partie en réalité. Donc la France elle-même est là, dans son prestige, et un peu jalouse de voir tourner autour les Chinois, les Américains, et c'est la guerre. On voit les diplomates français, oh, c'est choquant de voir les Chinois qui viennent polluer l'Afrique, c'est pas possible, alors que nous, avec notre colonisation, on était très bien. Mais non, c'est une guerre de colons. Et oui, parce que la puissance économique, c'est cela qui donne le ton dans la vie des affaires. Et comme la France voit que de plus en plus, sa voix est en train de diminuer à cause parfois de la faiblesse économique, et que ce sont les pays émergents comme la Chine, comme peut-être du côté du Brésil, qui commencent à attaquer l'Afrique, entre guillemets, eh bien, il y a une certaine jalousie. La France a été coquifiée par ces nouvelles puissances.
Bon, engagement aussi... En France, j'ai vu récemment votre nom au milieu de dizaines d'autres artistes et intellectuels en soutien aux luttes sociales, Alain Mabankou.
Ben, la France est un pays qui a l'avantage d'avoir eu sa grandeur par les révolutions sociales. Moi, je suis quelqu'un qui supporte la cause des retraités, la cause des ouvriers. Je suis un peu de gauche primaire. Donc, quand je suis à Los Angeles et que je lis l'actualité française et que je lis une pétition dans ce sens, et je pense que je peux et je dois, j'ai le devoir d'accompagner la voix de ces gens qui demandent des révolutions sociales.
Mais je vous ai parfois entendu fustiger le pessimisme français, expliquer que nous étions un grand pays.
Oui.
Et que les Français n'en avaient pas conscience, qu'ils se faisaient les fossoyeurs de cette grandeur.
Ça, c'est sur le plan culturel. Sur le plan culturel, ça change, parce que la France n'a pas conscience que sa culture a une dimension puissante dans le monde. Dans mes classes, je refuse de prendre des gens parce que tout le monde veut étudier la langue française, tout le monde veut étudier la littérature française. Donc, c'est aussi à nous qui sommes à l'étranger de dire à la France que parfois, il faut arrêter de se faire harakiri, d'être des sadomasochistes intellectuels. Il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs, voyager. Et puis, la définition de la France n'est plus seulement peut-être métropolitaine. Les France se retrouvent partout. Je suis africain, mais ma culture française aussi me permet de représenter la France partout dans le monde.
Ça n'a pas changé chez vous, Alain Mabankou. Votre amour de la langue française, comment vous aviez dit un jour, je suis l'amant séducteur la langue française.
Il faut être l'amant séducteur de la langue. On a la chance d'avoir une langue qui a des nuances, qui a la beauté, qui a de la finesse et qui peut faire des cabrioles, tandis que les autres langues commencent un peu à tourner en rond à force d'être engrossées par les termes économique ou par les termes des savants, eh bien la langue française, il y a encore la possibilité de faire de la poésie, de séduire, d'arrêter même le bruit des grillons tellement la beauté de la langue séduit. C'est ça que je recherche dans cette langue et j'ai le bonheur d'écrire en français. Ce bonheur, on ne peut pas me l'arracher. On peut tout faire, mais je resterai cet écrivain africain qui écrit dans la langue française avec un large sourire comme si le monde était à lui jusqu'à l'éternité.
Alain Mabankou, invité de C'est arrivé cette semaine. On va vous retrouver dans un instant, on va parler encore d'Afrique et puis aussi des États-Unis.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Alain Mabankou, l'un de nos plus brillants écrivains francophone, je peux encore dire ça, ou le terme francophonie vous commence à vous hérisser, Alain Mabankou?
Allez-y toujours, écrivain francophone, à condition que je sois écrivain francophone, que Charles Dantzig soit francophone, que Becbédé soit francophone.
Amélie Nothomb.
Que Amélie Nothomb, que mon ami Joncourt soit aussi francophone. Mais si francophone, c'est pour caractériser mon accent et mon côté ensoleillé, alors à ce moment-là, je ne suis pas cet écrivain francophone.
Alors, d'expression française.
Écrivain d'expression française.
8 leçons sur l'Afrique, vos leçons prononcées au Collège de France vont paraître début janvier chez Grasset. Cette Afrique dont vous êtes l'un des grands ambassadeurs, l'Afrique de votre enfance, Alain Mabankou, elle vous est interdite. Depuis quand n'êtes-vous pas retourné à Pointe-Noire ?
La dernière fois, c'était en 2013, donc ça fait 6 ans. Donc, de ce passage, j'avais écrit un roman, un récit, Lumière de Pointe-Noire. Donc, je n'y ai plus mis les pieds, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai pris le parti du peuple congolais, de dire ce que je pense, d'utiliser la plateforme que j'ai pour sensibiliser le peuple français sur la situation politique sur place. Ce n'est pas que je cherche un poste ou quoi. Si je voulais, je l'aurais fait. Je ne suis pas un homme politique. Je suis une sorte de membre de l'autorité morale congolaise. Et à ce titre, même si on m'interdit d'aller au Congo, ça n'a aucune importance puisque le romancier voyage dans le monde entier à travers ses livres, à travers tout ce qu'il est. Mes personnages n'ont pas de passeport, ils vont partout dans le monde.
Ça n'a aucune importance vraiment, ce n'est pas une blessure. Ce n'est pas une blessure pour vous.
Ça peut être c'est une blessure profonde, mais j'ai l'impression que chaque fois que j'écris sur le Congo, je visite un Congo qui n'est pas corrompu par les politiciens d'aujourd'hui. Je visite un Congo qui est un Congo de la fraternité entre les nordistes, les sudistes, c'est de l'ouest, du centre. Voilà, je parle à ce peuple congolais en n'ayant pas un regard sur ceux qui sont en train de le polluer actuellement.
Voilà 17 ans que vous enseignez les cultures africaines et la littérature d'expression française aux États-Unis. 4 ans au Michigan et 13 ans à l'université de Los Angeles, UCLA. Toujours à l'aise dans ce pays ?
Je suis toujours à l'aise dans ce pays parce que ce pays m'a donné la chance de vivre là-bas, de travailler là-bas, les États-Unis, et aussi de travailler en langue française. Je parle parfaitement anglais. Ils pouvaient me dire, écoutez, monsieur, vous allez aller travailler au département d'études comparées et enseigner la littérature afro-américaine en anglais. Mais on a laissé la liberté. Quand je parle de Proust, je parle en français. Quand je parle du surréalisme, des Balzac et autres, du réalisme, je le fais en français. Quand je parle de Senghor, de Césaire, mes cours sont en français. Les mêmes cours comme les leçons du Collège de France, je les enseigne à peu près tous les 2 ans aux étudiants américains en français. Ça veut dire que je me sens, c'est vrai, très loin de la France, mais toujours proche parce que je parle en français, mais très proche de l'Afrique aussi parce que dans cette France que j'enseigne là-bas, il y a l'Afrique.
Quand je vous demandais si vous étiez à l'aise toujours aux États-Unis, Alain Mabankou, je pensais aussi évidemment à la situation politique. Vous n'êtes pas citoyen américain, mais vous vivez au milieu des Américains. Est-ce que c'est le pays clivé, fracturé, qu'on observe parfois d'ici, de ce côté de l'Atlantique ?
Bien entendu, peut-être aussi, c'est par rapport aussi à la présidence que nous avons de l'autre côté. Si le président est un homme vraiment à sensation, évidemment, l'image qui se fait à travers le monde est l'image d'un certain Capharnaüm. Mais j'ai la chance de vivre dans un État qui vote le Parti démocrate aux élections, notamment
une
très large majorité en Californie. Et je suis dans une université plutôt progressiste, UCLA. Donc, je n'ai pas tendance... ce qui compte pour moi, c'est ce que le gouverneur de la Californie dit, pas forcément ce qui se dit de l'autre côté pour l'État fédéral. Ce qui compte, ce sont les décisions locales qui sont prises. Et vous savez qu'en Californie, il y a une certaine poussée. On ne peut pas imposer quelque chose. Les républicains ne peuvent rien imposer aux Californiens. D'ailleurs, ils ne viennent pas faire la campagne électorale là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont prendre une gamelle.
Ça n'empêche pas sans doute des Californiens d'être atterrés par le spectacle politique qu'ils voient à Washington.
Je pense que les plus grands et les plus virulents critiques du régime de Donald Trump se trouvent du côté de la Californie, aussi bien par tous ces acteurs de Hollywood que tous ces intellectuels qui sont là-bas. Mais ça se ressent surtout aussi sur le plan social. Les exactions politiques, la Californie, ce n'est pas seulement Hollywood, ce n'est pas seulement Larchmont Village, ce n'est pas seulement Wilshire Boulevard ou, je ne sais pas, Rodeo Drive. La Californie, c'est aussi Compton, hein, où il y a des crimes à tout moment. Il n'y a pas longtemps, un des grands rappeurs qui s'appelle Nipsey Hussle venait d'être assassiné dans une boutique qu'il avait créée, boutique de mode. Et ça, c'était quoi, à 200 mètres de là où je vis. J'avais entendu pratiquement les coups de feu. Je m'étais déplacé pour aller voir. Et quelques temps plus tard, d'autres assassinats se font dans des quartiers. De l'autre côté, c'est toujours cette communauté noire dans des règlements de compte ou alors en prise avec la police locale.
Vous n'aviez pas vu arrivé Trump, Alain Mabankou, je me souviens, je vous avais interrogé quelques mois avant la présidentielle, vous m'aviez dit « Je suis tranquille, Hillary Clinton sera présidente ». J'ose à peine vous demander, sinon un pronostic, au moins votre façon de voir les choses pour les mois à venir.
Non, mais jusqu'à cette émission, tout était fait pour que Hillary Clinton devienne présidente des États-Unis. Mais le problème, c'est que la fracture est venue au sein même du Parti démocrate, oui, dans la mesure où les électeurs et les électrices de Bernie Sanders n'ont pas voulu se rallier à Hillary Clinton. Il y avait une sorte de rejet systématique de cette femme en se disant non. Et donc, dans la mesure où vous êtes fracturé, eh bien, les extrêmes passent toujours par la fissure qui se trouve là. Ce ne sont pas les républicains qui ont gagné en grossissant le nombre de voix, mais ce sont les démocrates qui se sont fragilisés d'eux-mêmes. Et je pense que cette fois-ci, ils doivent aller grouper, éviter les erreurs du passé. Ils n'ont plus en face de Hillary Clinton, ils auront d'autres choses. Il faut que, dès qu'ils ont un candidat, ils doivent se regrouper sans tenir qu'à cela. Autrement, nous aurons encore un hold-up de Donald Trump.
Merci beaucoup Alain Mabankou. Bon retour aux États-Unis, Californie, après ce passage à Europe 1. Dictionnaire enjoué des cultures africaines que vous avez composé avec le djiboutien Abdourahman Waberi, est paru il y a quelques semaines chez Fayard. Et puis vos 8 leçons sur l'Afrique sont à paraître chez Grasset. Merci infiniment.
Merci beaucoup.